Bon, je vais me présenter rapidement pour ceux peut-être qui me connaissent un peu moins. Donc, je m'appelle Sylvain, j'ai 35 ans. Je suis marié donc à Limine et nous avons trois enfants, Ézéchias, Josias et Méane. Et je travaille dans un cabinet d'ingénierie où je suis responsable de projet. Alors, je bénis le Seigneur par le chemin par lequel il m'a fait passer pour en arriver là. Le Seigneur fait tout à merveille. Je n'aurais pas nécessairement pu le proclamer tout au long du parcours. Donc c'est une bonne chose que vous m'ayez demandé maintenant de témoigner pour que je puisse, maintenant que je suis en mesure de le dire. Alors aujourd'hui, le thème est le travail dans ma vie. Et une des premières phrases du mail de prière de l'Assemblée de vendredi était que Jésus nous garde dans sa fidélité et offensif pour la vérité, alors qu'il y a tant d'offensives du mal, de séduction et de persécution. C'est vraisemblablement un message que le Seigneur a pour nous, puisque j'allais justement parler dans ce sens aussi aujourd'hui. Donc je vais juste reprendre la première partie, mais à la fin de la première partie. Et après, en fait, je vais partager mon témoignage en répondant à la question « Comment le Seigneur a utilisé le travail dans ma vie ?» Donc je vais reprendre juste la dernière partie. Pourquoi travailler, en fait ? J'avais fait quelques paragraphes, mais je vais reprendre celle-là parce que je trouve qu'il y a juste un petit point qui est intéressant, je trouve. Donc, pourquoi travailler ? Donc, sûrement pas pour amasser des richesses. On a Matthieu 6, 19 à 21. « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, si on va un peu plus loin, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Donc là, je ne pense pas qu'il y a de doute à ce niveau-là. On a aussi 1 Timothée 6, versets 6 à 10. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement, car nous n'avons rien apporté dans le monde, et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux, qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns en étant possédés se sont égarés loin de la foi, et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. » Donc là, on ne peut pas être plus clair que ça. Donc pourquoi travailler ? Simplement pour nourrir sa famille, pour voir à ses besoins. Et la Bible ajoute également, un point intéressant. Elle dit « pour pouvoir donner aux pauvres ». Dans Éphésiens 4, verset 28, « Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille, en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. » On retrouve cette idée aussi dans Actes 20, versets 33 à 35. Là, c'est l'apôtre Paul qui dit « Je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni les vêtements de personne. Vous savez vous-même que ces mains ont pourvu à mes besoins et à ceux des personnes qui étaient avec moi. Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. » Et j'ajouterai une dernière raison qui, là, se rapproche justement de la conclusion. C'est pour ça que je pense que vraiment le Seigneur conduit les circonstances. Il se rapproche vraiment de la conclusion du message de ce matin. Donc la raison que je rajoute et qui ressort de mon témoignage, il est bon de travailler pour nous garder dans un état d'esprit volontaire et combatif. Et donc c'est ce que je vais vous partager maintenant. Alors comment le Seigneur a utilisé le travail dans ma vie ? Alors pour répondre à cette question, il faut que je présente un peu mon parcours et les différentes étapes par lesquelles je suis passé. J'en ai déjà relaté certaines dans le bulletin, qui est paru il y a quelques temps maintenant. Mais je vais quand même y revenir parce que elles sont essentielles, ces étapes, pour expliquer ma relation au travail. Donc je remonte pour cela à ma première année de classe préparatoire, juste après le baccalauréat, donc ça remonte un peu. C'était l'année 2001-2002. Donc tout s'était très bien passé lors de cette année. Le Seigneur avait béni mon travail. Mais après toutes ces années d'études réussies, mon cœur était orgueilleux. Et que dit la Bible dans Jacques chapitre 4, verset 6 ? Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Dieu a permis alors que je tombe malade. Il n'y avait pas de symptômes précis, j'étais juste toujours très fatigué. Après des prises de sang, le médecin a conclu que j'avais dû avoir la toxoplasmose. La fatigue liée à cette maladie peut apparemment durer plusieurs mois. Alors que ce soit cette maladie ou pas, la fatigue est restée. Si bien que la deuxième année de classe préparatoire, je me suis écroulé dans mes résultats. Je suis passé du haut du classement au bas du classement. Je n'avais plus de motivation, plus de résistance à l'effort. Je ne sais pas pourquoi ça me remonte comme ça maintenant, mais gloire à Dieu, le Seigneur pourvoit. Le Seigneur ne tente pas au-delà de nos forces, comme on le lit dans 1 Corinthiens 10, verset 13. Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. À travers cette épreuve, Dieu a pourvu, d'abord à travers le soutien de mes parents, que je veux remercier aujourd'hui, et à travers l'Église aussi, qui a probablement prié pour moi à cette époque, même si j'en étais pas nécessairement conscient. Et Dieu a pourvu aussi à travers la chimie, l'intérêt qu'il m'a donné pour la chimie. Mes résultats en physique, en maths s'écroulaient, mais en chimie, ça se passait bien. C'était la seule matière pour laquelle j'avais un intérêt suffisamment important pour travailler quoi qu'il arrive. Et le Seigneur m'a même permis d'intégrer l'école de chimie que je souhaitais à Strasbourg. Il fallait bien que j'aille quand même à Strasbourg pour rencontrer la femme merveilleuse qu'il avait préparée pour moi. Merci Seigneur. Mais la fatigue ne s'est pas envolée pour autant. Les années à Strasbourg ont aussi été marquées par une fatigue récurrente. Quand vous êtes fatigué pendant une longue période, quelque chose peut changer, je crois, au niveau psychologique. Vous êtes toujours fatigué et vous avez l'impression que ça ne changera jamais. Et c'est cette pensée qui s'installe. Vous perdez la capacité de voir autrement et vous entrez dans un cercle vicieux. Vous devenez prisonnier de cette pensée et de ses conséquences. C'est, je pense, ce qui s'est produit pour moi. Pendant de longues années, j'ai lutté contre la fatigue. Cette fatigue n'était plus liée, je pense, à la maladie initiale, mais était plus d'ordre psychologique. Et la fatigue affecte les plans moral, physique et spirituel. Quand vous regardez les autres qui ont l'air d'avoir tant de force et de courage, et que vous n'en trouvez pas en vous, ce n'est pas facile. C'est l'analyse que je peux en faire maintenant, avec le recul. Alors pendant tout ce temps, des choses se sont passées. J'ai rencontré mon épouse, nous nous sommes mariés, nous avons eu des enfants. La fatigue était toujours là, en toile de fond. Au cours de ces années, le Seigneur m'a enseigné et m'a relevé petit à petit. Il a pris le temps nécessaire. Et pour être honnête, ce n'est que récemment, pendant nos vacances dans les Alpes, en août dernier, que j'ai eu le sentiment d'avoir vraiment récupéré toutes mes capacités physiques. Alors quand Marion m'a sollicité pour donner un témoignage sur le travail, je me suis dit « c'est bizarre, je suis bien le moins bien placé pour parler du travail. » Moi qui ai toujours lutté contre la fatigue et le manque de motivation. Mais en me demandant aujourd'hui de témoigner de ce que le Seigneur a fait dans ma vie à ce niveau, c'est comme si le Seigneur me montrait que cette page de ma vie marquée par la fatigue et la faiblesse se tourne à présent. Alors ce que le Seigneur m'a enseigné, quand le Seigneur m'a brisé, le but premier de la leçon, et ce que j'ai reconnu assez rapidement, c'est que tout vient de Dieu. On le lit dans 1 Corinthiens 4, verset 7. « Qu'as-tu que tu n'aies reçu ? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu ?» On a aussi le passage dans Jacques 1, verset 17. « Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. » Tout est don de Dieu. Alors quand on a réussi, on peut facilement penser qu'on y est quand même pour quelque chose. On a travaillé dur, fait des sacrifices, on le mérite. Oui, sans aucun doute. Mais qui nous a donné la santé pour que cela soit possible? Qui nous a donné cette vision, cette motivation? Qui nous a donné les moyens pour mettre nos plans à exécution? Il y a beaucoup trop de choses que l'on reçoit de Dieu sans s'en rendre compte et sans lui rendre la gloire. Cette leçon, donc, je l'ai apprise assez vite, mais la fatigue était là. Mon rapport au travail avait changé. Quand une tâche se présentait, je voyais toujours à l'avance la fatigue et les difficultés que cela allait engendrer. J'étais fatigué avant de commencer. Le combat à mener était contre mes pensées. Alors je vais vous partager ce que le Seigneur m'a enseigné. Vous ne rencontrez peut-être pas du tout de problème avec la fatigue, avec le travail. Ces leçons que le Seigneur m'a données ne vous concernent peut-être pas du tout. Pour les plus anciens qui ont travaillé dur toute leur vie, peut-être vous ne vous sentirez peut-être pas concerné. Ce que je souhaite montrer, c'est comment le Seigneur nous enseigne, chacun selon nos besoins, et en l'occurrence, ce qu'il a fait dans ma vie au sujet du travail. pour lui rendre gloire. Il y a quand même quelques leçons du Seigneur qui, je pense, pourront profiter à d'autres, nous qui vivons tous dans cette société qui nous pousse à la détente et au loisir. Alors je me souviens de la première chose que le Seigneur m'a montrée, c'était de ne pas trop penser juste à mon réveil. J'étais dans ma chambre d'étudiant et quand je me réveillais, j'étais déjà démotivé. Je pensais encore une autre journée de boulot. Si vous vous réveillez comme ça, c'est sûr que vous allez être fatigué toute la journée. Ce que le Seigneur m'a montré donc, c'est de bloquer les pensées à mon réveil, au moins jusqu'à la douche ou au petit déjeuner. Après cela, j'étais déjà un peu plus réveillé et j'étais déjà capable de penser autrement. Ensuite, il m'a montré aussi à mon coucher de penser positivement à propos du lendemain. Si vous vous endormez en vous disant que la journée suivante sera difficile, en étant déjà découragé, vous allez vous réveiller fatigué. Il n'est pas question ici de technique de pensée positive ou autre. Mais Dieu nous a créé corps, âme et esprit. Le côté psychologique fait partie intégrante de nous-mêmes. Et si le diable ne nous touche pas beaucoup physiquement dans nos pays occidentaux, du moins pour nous croyants, il attaque sur le plan psychologique dans nos pensées. Il y a donc véritablement un combat à mener dans nos pensées. Et ce combat, il faut bien le mener avec le Seigneur. Dans 1 Thessaloniciens 5, verset 23, on peut lire « Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus. » Notre âme, siège de nos pensées, de nos émotions, doit être sanctifiée. Nos pensées doivent être changées dans beaucoup de domaines. Le péché nous a éloignés des plans de Dieu, il nous a avilis. Et sans le Seigneur, nous sommes des hommes et des femmes loin de ce que le Seigneur avait prévu. Quand Dieu nous restaure, il nous rétablit pour que nous soyons les hommes et les femmes qu'il avait prévus à l'origine. Des hommes et des femmes courageux, des hommes et des femmes pleins d'amour, des hommes et des femmes remplis de force, avec bien sûr l'assistance de son esprit. Le Seigneur nous dit quand même, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » En Jean 15, verset 5. Alors, pour que cela soit possible, le Seigneur doit nous restaurer dans bien des domaines. Et le domaine des pensées représente un champ de travail important. Si vous cherchez le Seigneur, il saura vous montrer les façons de penser qui doivent être changées en vous. Le but du diable est de nous immobiliser et son principal champ d'action, ici dans nos pays occidentaux, ce sont nos pensées. Alors une autre façon de voir qu'il a modifié aussi chez moi plus récemment, c'est ma façon de voir les soirées après le travail ou le week-end. Après une bonne journée de travail ou une bonne semaine de travail, j'ai bien le droit de profiter un peu de la soirée ou du week-end. Non ? Quand je pense comme ça, toute tâche qui va se présenter en soirée ou pendant le week-end va être une corvée. Ça va être pénible. Si je pense « voici le week-end, je vais pouvoir avancer à autre chose », je suis dans un autre état d'esprit. Je suis encore prêt à travailler. Quand je pense de la première façon, je suis vraiment fatigué. Alors que quand je pense de la deuxième façon, il y a quand même un effort à faire, mais je me rends compte après coup que cela était tout à fait faisable. Par exemple, travailler sur une prédication en soirée, après la journée de travail, après que les enfants soient couchés. Ces victoires dans nos pensées ne se gagnent pas sans le Seigneur, bien sûr. Et c'est un combat de tous les jours. Mais petit à petit, c'est notre état d'esprit qui change. Notre esprit devient plus combatif. Dans beaucoup de domaines, c'est l'état d'esprit avec lequel nous abordons les choses qui fera de la tâche un fardeau ou une joie. On pourrait aussi en parler dans le domaine de l'évangélisation. Alors ces choses, le Seigneur me les a montrées petit à petit. De mes années étudiantes à aujourd'hui, il y a quand même eu 16 ans. Quand le Seigneur nous enseigne quelque chose, il attend que nous le mettions en pratique. Il ne va pas nous enseigner autre chose tant que nous n'avons pas mis en pratique la première chose qu'il nous a enseignée. Gloire à Dieu, le Seigneur est patient. Alors le travail dans tout cela. Donc le Seigneur m'a brisé parce que c'était nécessaire. Mais quand il nous brise, ce n'est pas pour nous laisser ainsi. C'est pour nous reconstruire selon son désir. comme on peut le lire dans Jérémie 18, versets 1 à 6. La parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots: « Lève-toi et descends dans la maison du potier. Là, je te ferai entendre mes paroles. » Je descendis dans la maison du potier, et voici, il travaillait sur un tour. Le vase qu'il faisait ne réussit pas, comme il arrive à l'argile dans la main du potier. Il en refit un autre vase, tel qu'il trouva bon de le faire. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots: « Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël ?» dit l'Éternel. « Voici comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. » Le potier détruit et remodèle. Le Seigneur a donc travaillé en moi pour me rétablir en changeant mes pensées. Mais il m'a aussi remis gentiment au travail, petit à petit, en augmentant la difficulté au fur et à mesure. D'abord en nous donnant des enfants. Quand on a des enfants, on ne peut pas se laisser aller. Il faut assumer. Ensuite, en me faisant sortir de la chimie. La chimie était sans doute un environnement un peu trop confortable pour moi. Il n'y a pas beaucoup de boulot dans la recherche, qui est ma formation initiale. J'ai connu deux périodes de chômage avant de décider de me réorienter. Et j'ai repris, donc j'avais 30 ans, je pense, à peu près. J'ai repris des études en alternance entre Marcq-en-Barœul, où nous habitions, Arras, où se situait le centre d'études, et Bierne, tout près de Dunkerque, donc là où je travaille actuellement. Le domaine de l'ingénierie m'était complètement inconnu. Il a fallu tout apprendre au fur et à mesure. J'étais constamment hors de ma zone de confort. À travers toutes ces difficultés, le Seigneur a reconstruit mon assurance. Quand vous êtes toujours fatigué, il y a beaucoup de choses dans lesquelles vous n'osez pas vous lancer, parce que vous avez l'impression que ça sera au-dessus de vos forces. Mais là, j'y étais contraint. Depuis que je suis dans cette entreprise, j'ai souvent pensé à partir. Peut-être, je peux dire, fuir. Je cherchais un domaine d'activité où je retrouverais un peu plus ma zone de confort. Mais le Seigneur m'a soutenu et a béni mon travail. Gloire à son nom. À travers toutes ces choses, le Seigneur a reconstruit ma combativité. Alors, et maintenant, et ensuite ? Le travail a donc été pour moi un lieu de reconstruction, un lieu d'entraînement au combat. Et je bénis le Seigneur de m'avoir fait passer par là. Le Seigneur a reconstruit ma combativité. Et je ne pense pas que cette reconstruction a pour but premier d'exceller sur mon lieu de travail, bien que le Seigneur soit glorifié par un travail honnête et de qualité. Le but premier de cette reconstruction est de m'équiper pour que je puisse prendre ma part, comme vous tous, aux nombreux combats spirituels qui se présentent devant nous. Comment pourrais-je combattre si je suis toujours fatigué ? En parallèle de ce que j'ai vécu au travail, le Seigneur m'a appris d'autres choses aussi sur le plan spirituel. Par exemple, l'amour du prochain. Ce que j'ai compris, c'est qu'aimer son prochain, c'est un choix. Jésus nous a aimés et il a choisi de donner sa vie. Peut-être certaines personnes ont reçu du Seigneur un amour des perdus qui vient naturellement. Pour moi, ce n'était pas le cas. Mon cœur était dur. Je voulais sincèrement servir le Seigneur, mais je ne ressentais pas d'amour pour les perdus. Si vous attendez d'avoir un cœur débordant d'émotions pour les perdus, pour aller partager l'Évangile, vous pouvez attendre longtemps. Mais le Seigneur nous dit dans Marc 16, verset 15, « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. » Nous devons juste obéir. Et je pense, on l'a bien vu aussi ce matin dans le petit film, dans la vidéo, il y avait la dame qui a témoigné, mais il y avait aussi un homme qui a témoigné qu'il a partagé l'Évangile avec un terroriste. Et c'est après avoir témoigné que l'amour est venu dans son cœur pour cet homme. Donc on doit obéir, et ensuite le Seigneur va nous donner aussi l'amour et les compétences pour faire le travail. Alors je dis, nous ne sommes pas tous évangélistes, mais nous pouvons tous prier pour nos amis, nos voisins, toutes les personnes que nous rencontrons. Si nous avons à cœur d'obéir, le Seigneur nous aidera à partager, il nous en donnera l'occasion, si nous le lui demandons. Et petit à petit, nous donnerons un évangile, et puis ça se reproduira de plus en plus souvent. Pendant longtemps, je n'ai pas osé prier dans ce sens, parce que j'avais peur que le Seigneur me demande d'aller frapper aux portes ou d'évangéliser dans la rue. Mais le Seigneur ne nous demande pas des choses au-delà de notre portée. Ça, c'est l'accusateur qui veut nous faire peur aussi souvent, qui nous dit « tu devrais faire ça, tu devrais faire ça ». Pour moi, c'était « tu devrais aller aux portes, taper ». Et moi, le résultat que ça avait, c'était que ça m'immobilisait plutôt qu'autre chose. Donc, obéissons au Seigneur, le Seigneur bénira. C'est ce qu'on a commencé à faire en témoignant, par exemple, aux enfants qui venaient pour Halloween, en distribuant quelques tracts dans notre quartier, en donnant quelques Nouveaux Testaments. Je ne prétends pas déborder d'amour, malheureusement, encore, ou partager avec toutes les personnes que je croise, loin de là. Mais petit à petit, le cœur se réchauffe et commence à aimer. Le Seigneur nous donne de réaliser aussi petit à petit l'oppression de l'ennemi. Mes frères et sœurs, le diable ne se donne aucun repos. Il déchire, détruit, sème la mort sans se relâcher. Il y a d'innombrables champs de bataille. Il nous faut regarder au-delà des apparences de notre société. Que le Seigneur nous donne de voir les cœurs de nos contemporains. Nous ne pouvons pas nous permettre de mettre les pieds sous la table et d'attendre le retour du Seigneur quand le diable fait tant de dégâts. Alors, gloire à Dieu, le Seigneur équipe son Église, et comme je l'ai dit, je suis convaincu que le Seigneur m'a relevé parce qu'il faut combattre. Alors, en pensant à cela, à la part que le travail séculier avait eu pour entraîner ma combativité, une image m'est venue à l'esprit que je vais vous soumettre. Je comparerai le travail séculier à l'entraînement sportif et le travail pour le Seigneur à la compétition. Évidemment, on passe beaucoup plus de temps dans notre entreprise, sur notre lieu de travail, qu'à travailler à proprement parler pour le Seigneur, même si toute notre vie doit être un témoignage. C'est la même chose du côté sportif. L'entraînement s'étale sur des périodes beaucoup plus longues que les compétitions. Le but de l'entraînement, c'est la compétition et la victoire dans la compétition. D'un côté, si vous ne faites pas l'effort pendant l'entraînement, il ne faut pas s'attendre à des victoires pendant la compétition. De même, si tu ne sais pas remonter tes manches sur ton lieu de travail séculier, si tu ne sais pas faire des efforts, ne t'attends pas à pouvoir combattre sur le plan spirituel et encore moins à remporter des victoires. D'un autre côté, la période d'entraînement est nécessaire et bonne en soi, mais si tu t'entraînes tellement jusqu'au soir, la veille de la compétition, et que tu es épuisé le jour de la compétition, tu n'auras plus les forces de combattre et la victoire t'échappera. Tu auras perdu le vrai sens de l'entraînement. De la même façon, travailler dur est bien et honorable devant le Seigneur. Mais si tu t'investis tellement dans ton travail que tu n'as ensuite plus les forces pour venir prier à la réunion de prière ou participer à une sortie d'évangélisation, je pense que tu fais fausse route. Peut-être aussi tu ne l'as pas choisi, mais le travail s'appesantit sur toi et t'enlève toute force pour passer du temps avec le Seigneur, pour prier, pour lire sa parole. Il y a là aussi un combat à mener. Cherche le Seigneur, cherche le soutien de frères et sœurs. Si tu désires combattre spirituellement, le Seigneur t'y aidera et changera les circonstances ou te donnera les forces pour que cela soit possible. Le diable va essayer de jouer sur les deux tableaux. Soit nous rendre paresseux, nous dire de profiter de la vie, soit nous assommer avec le travail. Le but étant le même, nous rendre inefficaces. Alors que le Seigneur nous donne de discerner ces choses, nous aide à prendre les bonnes décisions dans notre travail, nous aide à fixer nous-mêmes les limites aussi quand cela est possible, pour que nous puissions trouver un équilibre qui nous permette de combattre. Alors pour conclure, je dirais que donc pour moi le travail est important pour me garder dans un état d'esprit combatif. Il faut accepter d'être hors de sa zone de confort, et c'est souvent le travail qui nous en sort, car on y est contraint. Et pour finir, je vous laisse avec quelques versets. Que le Seigneur nous trouve comme Pierre, qui a dit à Jésus dans Luc, verset 5, chapitre 5, versets 5 et 6, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit, sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. » L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Dans Hébreux 6, verset 10, « Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. » Dans 1 Corinthiens 15, verset 58, « Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillons de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. » Et enfin, un dernier passage dans Agé 2, versets 1 à 5. Je ne sais pas si on peut faire ce parallèle entre la gloire du temple de Salomon, qui a été détruit puis reconstruit, et l'Église, qui était glorieuse au premier temps de son histoire, et qui a peut-être un peu perdu de son éclat aujourd'hui, et qui aurait bien besoin d'être restauré. Je vous laisse en juger. Je vous lis donc ce passage dans Agé 2, versets 1 à 5. Le 21e jour du 7e mois, la parole de l'Éternel se révéla par Agé, le prophète, en ces mots. Parle à Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, à Josué, fils de Jotsadak, le souverain sacrificateur, et au reste du peuple et dis-leur. Quel est parmi vous le survivant qui ait vu cette maison dans sa gloire première? Et comment la voyez-vous maintenant? Telle qu'elle est, ne paraît-elle pas comme rien à vos yeux? Maintenant fortifie-toi, Zorobabel, dit l'Éternel. Fortifie-toi, Josué, fils de Jotsadak, souverain sacrificateur. Fortifie-toi, peuple entier du pays, dit l'Éternel, et travaillez, car je suis avec vous, dit l'Éternel des armées. Je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous quand vous sortîtes de l'Égypte, et mon esprit est au milieu de vous. Ne craignez pas. Amen.